Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous remercie d'être venus nombreux pour cette présentation de ce bel ouvrage, ce livre sur Léo Drouin, signé par Bernard Larrieux. Ça n'étonnera pas les Bordelais qui connaissent les liens étroits entre Bernard Larrieux et Léo Drouin. Mais ce livre sur Léo Drouin, que Bernard Larrieux nous a permis de découvrir depuis longtemps, grâce à toute une série de publications et en particulier ces merveilleux albums dont il nous parlera un petit peu, depuis maintenant deux décennies, viennent enrichir les bibliothèques de certains et en tout cas donner beaucoup de plaisir à ceux qui les feuillettent, permettent de découvrir ce très grand dessinateur, cet artiste, cet historien, cet archéologue. Il nous l'a fait connaître. Mais il reste encore des zones d'ombre après les publications qu'il y a eues sur Léo Drouin. Et sans doute, cela mérite le sous-titre de cet ouvrage, Léo Drouin, cet illustre inconnu. Parce que effectivement, même si il nous semble, en particulier grâce à Bernard Larrieux, à la suite de Madame Portelli, qui avait publié avec Jacques Lacoste une première étude sur Léo Drouin, même si on a l'impression de connaître de mieux en mieux ce personnage, vous verrez en lisant cet ouvrage que des aspects de sa personnalité étaient restés totalement ignorés du grand public et même des spécialistes du patrimoine dont je suis. Je dois dire que en lisant ce livre pour préparer cette présentation à deux voix, dont nous sommes coutumiers, on se connaît depuis longtemps avec Bernard, mais en lisant cet ouvrage, j'ai encore découvert beaucoup d'aspects de Léo Drouin qui étaient restés tout à fait inconnus de moi. Et dans ce que je croyais connaître, en particulier le graveur, eh bien, j'ai aussi découvert beaucoup de choses qui restaient inconnues. Et alors, ce livre, Léo Drouin, cet illustre inconnu, porte un autre sous-titre ou surtitre, Entre art et science. Hein, entre art et science, l'art, effectivement, c'est l'art du dessinateur, du graveur, du peintre aussi, que l'on redécouvre dans cet ouvrage. Et la science, c'est celle de l'archéologue et de l'historien, qui est particulièrement bien analysé dans cet ouvrage. Alors tout ceci aurait pu faire un ouvrage un peu pesant, et un ouvrage, c'est-à-dire qu'on dit pesant, il y a en général universitaire, si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire, mais non, ça ne l'est pas. Alors tout d'abord, il n'y a pas autant de notes de bas de page que de texte, ce qui est plutôt une bonne chose. Et ce n'est pas du tout regrettable parce que le texte est tellement riche qu'on n'éprouve pas le besoin de ces compléments d'informations que l'on présente dans les notes. Et pour ce qui est de la bibliographie, il suffit de prendre la bibliographie de Bernard Larrieux pour avoir à peu près les sources de l'ouvrage de Bernard Larrieux. Donc là aussi, ça simplifie un petit peu les choses. Alors Bernard a décidé de nous présenter ce personnage et ce livre que l'on attend depuis longtemps. Mais effectivement, moi j'attendais une thèse. On attendait une thèse et elle n'arrive pas, cette thèse. Mais en définitive, on est très très heureux d'avoir la quintessence de ce que l'on aurait trouvé dans une thèse universitaire. Et ceci nous est présenté d'une manière légère, d'une manière extrêmement agréable. Et je crois que l'expression de Bernard, c'est une écriture ou une structure buissonnière, non pas buissonnante, mais buissonnière, pas buissonnante parce qu'elle est quand même très structurée. Elle est très structurée, mais en très courts chapitres, 101 chapitres, 101 tableaux, qui nous permettent de prendre contact avec ce personnage ou d'approfondir la connaissance qu'on a de lui par des petites touches. Il est un peu contemporain des impressionnistes, Léo Drouin. Et d'ailleurs, on verra qu'il se situe aussi dans l'histoire de la peinture et dans l'histoire des arts graphiques, à la charnière, à la naissance de l'impressionnisme. Eh bien, cette manière de présenter les choses est extrêmement agréable pour des gens qui ne veulent pas faire de Léo Drouin, cet illustre inconnu, leur livre de chevet. On a de bons romans qui nous tiennent le soir. Et qui, mais de temps en temps, on prend un peu une espèce de petite mousse légère, comme ça, et on prend un ou deux chapitres que l'on lit. Et alors, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça un petit peu artificiel, et j'étais très, très... Moi, j'aime les plans en trois parties avec introduction et conclusion, mais là, j'étais un petit peu surpris. Je me disais, bon, mais qu'est-ce que ça va donner? On va s'y perdre. Pas du tout. Parce que sous cet aspect un peu prime-sautier, eh bien, il y a une grande rigueur qui a permis à Bernard Larrieux de composer cet ouvrage en même temps selon une trame chronologique. C'est sans un tableau, ce ne sont pas des spots lancés à droite d'éclairage, lancés à droite et à gauche sur une personnalité. C'est une espèce de... Il a établi une séquence dans la vie de Léo Drouin. Alors, quelquefois, c'est un petit peu artificiel, parce que, évidemment, pour tomber juste sur 101, vous imaginez qu'il y a des séquences qui auraient mérité d'être regroupées, qu'il a scindées, et d'autres qui auraient pu, au contraire, être davantage éclatées. Mais ceci, pas beaucoup. Et cette séquence est chronologique, ce qui fait qu'en définitive, on a quand même une vie. Une vie, et Bernard Larrieux va nous expliquer, justement... Là, c'est presque c'est une vision du personnage qui est très, très profonde et très humaine qu'il nous propose dans ce tableau, dans ces 101 tableaux qui vont de la naissance à la mort, en nous montrant comment ce personnage évolue et ses facettes multiples de cet individu, comme chacun d'entre nous, surtout quand on a une vie très longue, comme Léo Drouin, 80 ans de production intense, de vie. Donc, c'est normal qu'il y ait tous ces tableaux. Alors, je vais donc, tout en faisant l'éloge, effectivement, de cette manière de présenter les choses, vous comprenez bien que je ne peux pas m'y tenir. Alors, j'ai essayé quand même de regrouper cette évanescente biographie. Alors, on va voir... D'abord, je vais organiser le discours et cette présentation. On va voir d'abord les chapitres qui ont trait à l'homme, la personnalité de Léo Drouin. Puis on verra le savant, l'archéologue, l'historien. On verra le militant du patrimoine. Et enfin, l'artiste et l'éditeur. Donc, ce ne sont pas 101 tableaux. On va regrouper ça parce que nous n'avons qu'une... une grande demi-heure, maintenant que j'ai beaucoup trop parlé déjà en introduction, et j'espère que Bernard va prendre la relève. Alors, on va commencer par l'homme. Et cet homme, bon, on le découvre, non pas simplement comme un graveur, dessinateur, historien, c'est un homme en chair et en os qui a un passé, une généalogie, c'est très important pour le comprendre en définitive, une descendance avec laquelle il entretient des rapports qui sont extrêmement riches et à la fois d'affection, de filiation. Son fils Léo devient lui aussi un artiste, il travaille un peu avec son père. Il nous a aussi présenté le cercle des amis dans lequel s'inscrit la sociabilité de ce personnage avec ses attitudes, ses orientations politiques. Bernard Larrieux va nous présenter tout ça. Alors, l'homme tout d'abord, Bernard, que l'on connaît par ce beau portrait que vous...
Oui, alors,
que tu peux évoquer.
C'était effectivement un peu... On va revenir un peu sur la structure du livre, parce que c'est bien évidemment toujours une gageure de présenter 80 ans d'une vie pour Léo Drouin, extrêmement active, puisqu'il a commencé à 20 ans, il est mort à 80 ans, donc 60 ans vraiment de travail incessant, et une vie qui a couvert finalement presque tout le 19e siècle, puisque Léo Drouin est né sous la Restauration, a commencé sa carrière sous la monarchie de Juillet, puis a connu la Seconde République. Peut-être que l'essentiel, le plus grand sommet, l'apogée de sa carrière se situe sous le Second Empire. Et puis, bien évidemment, il va connaître à partir de 1871 la Troisième République jusqu'à la fin de sa vie. C'est donc une vie très longue qui s'est déroulée pas de manière finalement, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, pas de manière si continue que cela. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle de Léo Drouin, on pense bien sûr à l'archéologue, au père de l'archéologie girondine, l'inventeur des églises romanes, l'inventeur des châteaux d'époque anglaise, l'inventeur du Moyen-Âge, on pourrait dire. On pense aussi bien sûr à l'artiste, au paysagiste. Mais fondamentalement, il y a toute une série de phases dans cette vie. Cette vie, il y a eu beaucoup d'évolutions. Et ce qui m'a paru intéressant, c'est finalement, lorsque on approfondit les choses, c'est de se rendre compte que l'évolution de cette vie, de cette carrière, de ce travail, finalement, suit d'une certaine manière, plus ou moins, je dirais, les mutations politiques. Alors, disons, Léo Drouin a été un temps de sa vie archéologue, même si l'archéologie a occupé longtemps. Puis il a été, à certains moments, paysagiste, artiste, même s'il a aussi, il y a un continuum. Et puis il est devenu, à certains moments, historien. Alors, essayer de montrer ces évolutions, de montrer ses différentes œuvres, l'évolution de son travail, l'évolution de son style, les différentes structures auxquelles il a appartenu, les différentes sociétés auxquelles il a appartenu, les influences qu'il a subies, les amitiés, les formations, tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a formé, puis à son tour, comment il a aussi eu une grande influence sur les autres. Alors, c'est effectivement quelque chose qui était un peu peut-être compliqué à tenir, je dirais, dans un ouvrage qui aurait été, comme le dit Philippe, disons, en trois parties. Donc, il m'a semblé que cela pouvait être aussi peut-être original d'essayer effectivement de décomposer, je dirais, de décomposer cette vie, cette œuvre, en une série de facettes, d'aspects où chacun pourrait être étudié, selon, effectivement, comme l'a dit Philippe, une trame chronologique. J'ai bien évidemment suivi une trame chronologique, mais où on pourrait effectivement développer chacun de ces aspects. Donc, bien évidemment, il faut faire un plan. J'ai donc choisi le titre, en quelque sorte, et la matière de ces 101 tableaux, de ces 101 facettes que je comptais développer. Et puis, sur cette trame-là, ensuite, finalement, quelque part, il a été assez facile pour moi, et peut-être, peut-être plus facile que s'il avait fallu faire une thèse. Bien évidemment, il est hors de question que je fasse une thèse, mais facile, ensuite, plus facile, et plus rapide, peut-être aussi, de développer chacun de ces aspects. Alors, bien évidemment, là, ce qui va faire l'unité de l'ouvrage va être effectivement le fait qu'il va y avoir une trame chronologique, que tout cela va se succéder. Et finalement, oui, les choses se succèdent parce que dans la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire que les œuvres se succèdent les unes aux autres. Les sociétés auxquelles on appartient, les rencontres que l'on fait se succèdent les unes aux autres. Et finalement, il y a comme ça toute une série de progressions qui se fait. Et donc, la trame chronologique donne, je crois, une cohérence à l'ouvrage. Alors ensuite, j'ai essayé aussi, par toute une série de renvois entre les différents tableaux, de aussi permettre au lecteur lorsqu'il voulait retrouver un thème qui était abordé un peu plus loin dans l'ouvrage. Donc, à chaque fois, je fais toute une série de renvois en marquant de parenthèses, voire tableau suivant, voire tableau numéro un tel, pour permettre justement aussi, un peu, si vous voulez, cette cohérence, d'améliorer encore cette cohérence. Puis, Philippe l'a dit, finalement, peut-être aussi, l'idée était que ça puisse favoriser, effectivement, une lecture peut-être plus facile pour le lecteur. C'est-à-dire que le lecteur, effectivement, a devant lui un livre. Lorsqu'il l'ouvre, effectivement, il peut le lire du début à la fin. Bon, on commence avec la naissance, on commence avec les jeunes années, on commence avec les années de formation, et on termine le livre à la mort de Léo Drouin. Mais en même temps, donc, on peut le lire de A à Z, et on peut le lire en suivant, et on voit comme ça se dérouler tout le cursus de cette vie, hein, tout le continuum de cette vie, qui est cohérent, continuum qui est cohérent, même s'il y a, je l'ai dit, des ruptures, et je reviendrai là-dessus. Mais en même temps, on peut avoir une autre lecture de ce livre, on peut avoir effectivement une lecture que j'ai appelée buissonnière, parce que c'est un terme que Drouin lui-même, disons, a utilisé lorsqu'il a parlé de sa Guyenne militaire. Donc une lecture plus buissonnière, dans le sens où, effectivement, on peut aussi, effectivement, ouvrir le livre, et on tombe sur un sujet, sur un thème, et on peut donc lire cette double page, éventuellement lire celle qui est avant, celle qui est après, parce que ça se tient, ou alors aller voir le tableau, la double page à laquelle je renvoie, si il y a effectivement un renvoi qui se fait. Et donc on peut avoir une lecture qui est effectivement peut-être plus aisée et plus facile, parce que bon, il m'a semblé que c'est important aussi que ce livre soit facilement accessible pour un lecteur peut-être non initié. Le sujet peut paraître ardu, bon, c'est un artiste archéologue du 19e siècle. Bon, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit des choses qui soient des sujets qui soient tout à fait peut-être à la mode. Donc voilà, il faut aussi rendre facile, accessible, plaisant. Et nous avons, avec mon graphiste, énormément travaillé sur la mise en page pour faire en sorte que la mise en page soit effectivement dynamique, vive, agréable à l'œil. Et bien évidemment, il y a une énorme illustration, c'est-à-dire que dans ce livre de 200 pages, il y a environ 700 illustrations. Voilà, donc un livre qui se présente, je l'espère, et c'est ce que j'ai voulu aussi, finalement, de manière originale. J'ai voulu aussi que les gens qui iraient chez Mola, qui ouvriraient le livre sur, disons, les étals, disent « Tiens, c'est bizarre ce livre, voilà comment il se présente ». C'est-à-dire qu'il y a aussi une sorte d'originalité dans la mise en page, et on a passé beaucoup de temps, effectivement, avec le graphiste, pour travailler sur la mise en page. Alors, donc, une trame, je l'ai dit, une trame chronologique. Alors, c'est vrai qu'on va retrouver, bon, ce Léo Drouin, cette évolution, cette vie, puisque Philippe me demande de parler de l'homme. Alors, bien évidemment, on va retrouver cet enfant, hein, qui a passé ses jeunes années dans la palue de Yson, à, comme il le dit, courir nu-tête avec les paysans de son âge. Cet enfant qui va être ensuite exilé à l'âge de 11 ans à la mort de son père en Lorraine, hein, jusqu'à 18 ans, et qui va passer comme ça 7 ans, hein, à 200 lieues de ce lieu où il a passé son enfance, véritable arrachement. Et puis ce retour, le bac en poche, et cette volonté familiale de le faire rentrer dans ce travail très honorable qu'est le commerce du vin, et ce refus, cette première rupture, ce refus de Léo Drouin, hein, qui écrit dans son livre de famille qu'il refusa ce sort, ce destin, hein, qu'on voulait lui donner, car, dit-il, le commerce lui était antipathique. Alors, le commerce lui était antipathique, là, ça renvoie à ce portrait, cet autoportrait de Léo Drouin dont Philippe a parlé, hein, la mèche comme ça, l'œil frémissant, aigu, l'artiste, hein, on dirait la photo de la croix par Nadar. Hein, ça se ressemble beaucoup, il y a vraiment un point commun. Et ben oui, Léo Drouin, donc, ne pense qu'à une chose, il est doué, il a un don, et il veut faire l'artiste. Donc il va rompre avec sa famille, et il faut dire que sans doute, ce fils aîné n'a pas été si facile que ça. Hein, donc s'inscrire à Bordeaux, chez Jean-Paul Allot, dans l'atelier Jean-Paul Allot, et puis bien évidemment les ateliers parisiens. Donc, finalement, un apprentissage d'artiste commun, je dirais, assez commun pour un artiste de province. Ça démarre toujours comme ça, et ça se termine toujours comme ça, à Paris. Sauf que la plupart y restent, Certains reviennent, et Drouin est revenu. Et là, il faut qu'il gagne sa vie, parce qu'il s'est marié, on en parlait un peu avant la réunion. Il est rentré à Paris parce qu'il s'était marié, marié en naissant. Il dit que je me suis marié en naissant. Il a un fils, Léon, le futur architecte. Et il faut qu'il gagne sa vie. Et là, donc, sa vie, on sait qu'il va la gagner en devenant le dessinateur de la toute jeune commission des monuments historiques créée en 1839 à Bordeaux et dans laquelle il rentre en 1842, donc 3 ans plus tard. Et là, il va travailler pour elle. Et c'est là qu'il va découvrir, qu'il va finalement se prendre de passion. Un de ses biographes dit que c'est en dessinant l'église de Loupiac qu'il se prend de passion pour le Moyen-Âge et qu'il veut comprendre ce qu'il dessine. Donc voilà, ça y est, c'est parti, l'archéologie, il a mis le petit doigt, tout va y passer, produit son premier chef-d'œuvre, le choix des types les plus remarquables des architectures au Moyen-Âge dans les départements de la Gironde, et puis rupture encore. Hein, au bout de 6-7 ans, rupture avec cette commission pour laquelle il travaille, qui lui a assuré une certaine renommée, eh bien, il rompt. Et on sait qu'il rompt pour ce qui va être vraiment des choses vraiment majeures dans son existence et une problématique essentielle, qui est celle de la conservation du patrimoine, celle du vandalisme patrimonial. Pourquoi ? Parce que ces maîtres à penser ne sont pas la commission des monuments historiques pour laquelle il travaille. Ces maîtres à penser sont la Société française d'archéologie d'Arcis de Caumont, qui, elle, se bat pour la conservation du patrimoine et qui considère que les travaux de restauration de Viollet-le-Duc et de tous ses acolytes, tous ses disciples, sont un nouveau vandalisme patrimonial. Guerre aux démolisseurs, disait Victor Hugo. Et les nouveaux démolisseurs sont pour ces gens, pour les Audouin et ses amis. Grande question, qui aujourd'hui encore est débattue. Voilà, positif, négatif, de gens comme Viollet-le-Duc ou Abadie, Paul Abadie. Et donc il va rompre. Il va rompre avec cette commission, il va faire la guerre, il va vraiment... épisode de l'église de la Rivière qui est développé, puisqu'on peut dater très précisément qu'elle a été finalement le détonateur de cette rupture qui a été l'église de la Rivière, la destruction de l'église de la Rivière. Et à partir de là, il va devenir un adversaire acharné, bien évidemment, non seulement de la commission, de ses travaux, mais bien évidemment de celui qui est le maître d'œuvre de beaucoup de ses travaux, notamment dans les églises, qui est bien sûr le cardinal Donné. Et donc c'est la grande hostilité, la grande opposition entre Drouin et Donné. Il y aurait là, on a créé même une lecture théâtralisée autour de ça, qu'on a présentée plusieurs fois dans nos manifestations autour de Léo Drouin. Donc voilà, nouvelle période de sa vie qui commence à partir des... Et là, ça coïncide avec la révolution de 48. Et peut-être d'ailleurs, s'il quitte la commission de monuments historiques, c'est que désormais on l'appelle citoyen et qu'il n'aime pas être appelé citoyen. Que les amis qu'il fréquente, les gens qu'il fréquente, ce sont des gens qui, pas en 48, mais en 1830, ont été ces émigrés de l'intérieur, qui ont démissionné de toutes les charges publiques qu'ils avaient pour ne pas cautionner, le règne de Louis-Philippe. Il n'est pas exclu que quand Drouin démissionne, quand Drouin quitte la commission de monuments historiques, refuse de travailler avec elle, il a aussi ça en tête. Puisqu'il ne faut pas le cacher, donc le Drouin est légitimiste, royaliste, légitimiste, ultra. Donc, une nouvelle décennie qui s'ouvre, avec le début du Second Empire, dans lequel il va être... L'artiste va revenir. L'artiste va revenir, et là, dans le livre, effectivement, je traite, et là, je regroupe. Donc, à la fois... mais je regroupe, là, je crois, de manière juste, c'est-à-dire tous ces travaux, effectivement, artistiques, le peintre, le dessinateur, le graveur, en tout cas, de paysages. Je donne une double page, par exemple, au fond d'assiette qu'il a fait pour Vieillard. Audouin a fait des fonds d'assiette pour Vieillard. Et puis, je développe aussi, effectivement, cette chose-là qui a été très peu développée, parce que jusqu'à présent, on connaissait très peu d'œuvres de Léo Drouin, la peinture. Je consacre de nombreuses pages à la peinture de Léo Drouin, au salon auquel il a participé. Lorsque Frédéric Portelli-Zavialov, qui a fait une très belle œuvre, enfin une très belle thèse sur les graveurs paysagistes bordelais dans les années 70, à son époque, on ne connaissait que 3 peintures de Léo Drouin. Son autoportrait, les destructions du cloître, et quoi encore, peut-être une troisième qui était ce port de Bordeaux. Et depuis, je crois qu'actuellement, moi, j'ai dû repérer entre 25 et 30 peintures, toiles de Léo Drouin. Donc bien évidemment, le champ s'est élargi. Hein, le champ s'est élargi, le corpus est beaucoup plus vaste. Et donc, il y a là énormément de choses à dire sur le travail d'artiste de Laudoin, d'autant plus qu'il découvre à ce moment-là le bassin, il découvre la forêt usagère de la Teste, il découvre des lieux qui vont l'inspirer. Cette lande qui va vraiment, pour laquelle il va avoir une affinité élective formidable. Et puis, donc, c'est l'époque où il revient à Barbizon. Et j'ai eu la chance de retrouver un album entier fait à Barbizon, et on présente, bien évidemment. Hein, et là, le but du livre est aussi de présenter ce contexte général dans lequel Léo Drouin évolue, ses relations. Et donc, il y aura quelques pages dans le livre, il y a quelques pages qui sont consacrées, soit effectivement à la Société française d'archéologie, à l'école de Barbizon, aux techniques que Philippe a dit. Donc, au fur et à mesure que nous avançons dans le livre, tout à la fois, on avance dans cette carrière, dans cette évolution, on marque ces ruptures, on voit cela, mais en même temps, l'idée, c'est de faire comprendre, c'est-à-dire de replacer cette vie de Léo Drouin, cette œuvre de Léo Drouin, dans son contexte historique, artistique, idéologique, changeant, parce que les problématiques ne sont pas les mêmes sous la monarchie de Juillet, sous le Second Empire et encore moins sous la Troisième République. Donc à chaque fois, il faut recentrer, il faut replacer, il faut resituer, il faut contextualiser. Donc le but du livre a été aussi de faire cela. Donc toute cette grande période qui coïncide d'ailleurs, mais ce n'est pas un hasard non plus, 1851 à Bordeaux, c'est la création de la Société des Amis des Arts. Il y a eu ce très beau livre de Dussol sur la Société des Amis des Arts. Bon, et Drouin est membre fondateur de la Société des Amis des Arts. Mais c'est quoi? C'est des salons. À Bordeaux, enfin des salons, tous les ans. Donc, on va produire pour les salons. Peut-être on va faire carrière. Un jeune artiste, des salons dans sa ville, il peut toujours espérer, effectivement, qu'une carrière va s'ouvrir, une carrière d'artiste, de peintre. Et d'autant plus que la critique, et dans l'ouvrage, je cite énormément de critiques, d'extraits de critiques, puisque j'ai essayé de faire en sorte aussi que le texte soit bourré, je dirais, de citations. Enfin, il y a énormément de citations. Donc, soit de la correspondance de Léo Drouin, soit justement de critiques, de gens qui ont écrit sur lui, qui ont écrit sur les sujets dans lesquels tout ceci se contextualise. Donc voilà, un artiste dans ces années 1850, 56, 57, une carrière artistique. Et puis finalement, une carrière artistique dont lui-même se rend compte qu'elle ne mènera à rien. Parce que il n'est pas d'Aubigny, parce qu'il n'est pas Courbet, parce que il n'est pas. Puis ça va vite, hein, l'impressionnisme arrive. Lui, ses amis, c'est ce qu'il appelle l'école moderne du paysage, celle qu'on appelle aujourd'hui l'école Barbizon. Ses amis, c'est Théodore Rousseau, Diaz de la Peña. Bon, il voit bien qu'en tant que peintre, même si ses œuvres sont très belles, moi je les admire beaucoup, moi qui ne suis pas peintre, bien évidemment, j'ai l'admiration facile. Mais sans doute a-t-il considéré qu'il n'avait pas le talent de Diaz de la Peña, magnifique coloriste de Théodore Rousseau. Donc finalement, il va se rendre compte que peut-être son avenir à lui n'est pas là, mais peut-être effectivement dans l'archéologie. Mais dans l'archéologie dans laquelle il pourra exprimer un autre art, un autre talent qu'il a, et qui va finalement être le talent qui va effectivement assurer sa notoriété, qui fait qu'aujourd'hui, il est dans toutes les encyclopédies de cet art-là, c'est la gravure, c'est l'eau forte. Car Léo Drouin, à Paris, dans ses ateliers parisiens, a appris l'eau forte. Il a appris l'eau forte chez Louis Marvy, qui était un des graveurs de Barbizon, et à Bordeaux, il est le seul. Il est le seul à maîtriser l'eau forte. Et donc, il va comprendre que peut-être il peut, sur des sujets pionniers que personne n'a jamais travaillé, il va peut-être pouvoir publier, éditer, écrire des livres qui illustrera par ses eaux fortes. Et bien évidemment, on se dirige vers son chef-d'œuvre, qui est, à partir de 1859-60, la Guyenne militaire. Donc, nouvelle partie, nouvelle vie qui s'ouvre à partir de ces années-là, dans lesquelles on le retrouve de plus en plus lié à la Société française d'archéologie, et notamment à l'Institut des provinces. Et je consacre des doubles pages au congrès de Périgueux de 58, au congrès de Bordeaux de 61, dans lequel il joue un rôle majeur, à sa participation aussi aux archives historiques de la Gironde de Jules Delpy. Et là s'ouvre, puis je m'arrêterai là parce que sinon là, j'en ai pour deux heures, et s'ouvre finalement une autre facette, un autre aspect nouveau de son travail. C'est finalement progressivement, par la découverte des archives, grâce à Jules Delpy, le fait que de l'histoire, la découverte de l'histoire. C'est-à-dire que les monuments on peut les lire, on peut effectivement lire un monument en lisant la pierre, archives de pierre, dit-on, mais il y a aussi des archives de papier. Et Léo Drouin va se rendre compte, et il est le premier à s'en rendre compte, et il est le premier à le faire, en tout cas ici, qu'on peut et on doit croiser les archives de papier et les archives de pierre pour avoir une connaissance du monument infiniment plus riche. Et c'est ça qui fait que, je crois, aujourd'hui d'ailleurs, les œuvres de Léo Drouin, les travaux de Léo Drouin, n'ont pas vieilli. Les travaux de Léo Drouin sont toujours extrêmement, pour les historiens qui travaillent sur Léo Drouin, mais toujours surpris, finalement, de sa modernité, du fait qu'il y a peu de choses à reprendre, parce qu'il y a ce travail tout à la fois de croisement des archives de papier et de pierre. Alors il va devenir progressivement de plus en plus historien, effectivement, et c'est le grand tournant, je dirais, des années 70, qui coïncide aussi, finalement, avec une mutation politique qui est celle, effectivement, de la fin du Second Empire et de la Troisième République. Il va devenir de plus en plus historien, avec notamment ce chef-d'œuvre qui est Bordeaux vers 1450, et puis tout ce travail d'archives, avec une œuvre peu connue, mais qui est tout à fait extraordinaire, qui s'appelle « Les Contes de l'archevêché », hein, que Philippe, bien sûr, connaît, que certains d'entre vous connaissent. Et on va, là, le voir progressivement s'intéresser de plus en plus, par le biais des archives, à l'histoire. Et là, il va développer un genre qui va être le premier, là encore, parce que Léo Drouin ne fait les choses que s'il est le premier à les faire, s'il est pionnier. Il va donc inventer, en quelque sorte, ce qu'on appelle la monographie paroissiale, hein, c'est-à-dire cette étude, non pas d'un monument, mais d'une commune, une paroisse, dans laquelle, par à la fois l'étude des monuments et l'étude des textes, eh bien, on va essayer de dire le maximum de choses sur une paroisse. Donc voilà, toute une évolution progressive qui fait que, mais on en reparlera, puisque Philippe va me faire parler de l'archéologue, de l'historien, de paysagiste, donc je m'arrête là. Mais voilà, donc on retrouve, bien sûr, tout au long de l'ouvrage, cette évolution. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer, que, bien sûr, on dit Léo Drouin, l'archéologue, Léo Drouin, le paysagiste, l'artiste paysagiste, mais c'est beaucoup plus complexe que cela. Et la chronologie est très importante, car sur une 60 ans d'une vie qui couvre toutes ces périodes historiques, bien évidemment, il y a énormément de mutations, et Léo Drouin a connu ces mutations. Il les accompagnait souvent.
Vous voyez, comme c'est une vie, en définitive, qui est marquée de manière dominante par le travail. Il y a des biographies de personnages, d'hommes, qui pourraient être faits par une succession de femmes ou de métiers, maintenant. Tandis que lui, c'est vraiment, hein, d'ailleurs, Bernard l'a bien montré, c'est ce qui est absolument invraisemblable. Chez les hommes de sa génération, chez ces érudits du 19e siècle, c'est cette immense capacité de travail. C'est quelque chose... D'ailleurs, il le dit, il travaille même la nuit. Enfin,
il y a des citations extraordinaires dans lesquelles... ce qui est, disons, la grande chance, c'est d'avoir retrouvé quand même, même si pour l'instant j'en suis, je dirais, presque qu'aux prémices, mais enfin, j'ai pu dépiauter une partie quand même de sa correspondance, même s'il en reste encore beaucoup à dépiauter. On en reparlera sans doute. Mais c'est vrai que, par exemple, la correspondance avec Maxime Hagan, qui était aussi un artiste originaire de Bordeaux, mais qui a fait une carrière parisienne. Et dans ces quelques lettres qui sont conservées à Maxime Hagan, lueur de la guine militaire, il dit vraiment qu'il est totalement échiné, qu'il travaille... pour retrouver les citations, il travaille comme un fou pour... il faudrait trouver la citation, mais effectivement, dans lequel, bon, il, jour et nuit, effectivement, c'est un travail de galérien, je crois qu'il utilise ce mot-là, travail de galérien, et voilà... Je ne trouverai pas aussi spontanément ces citations, mais enfin, voilà. Donc toute une série effectivement de passages, de lettres dans lesquelles, oui, il explique comment il travaille. Effectivement, c'est un livre comme La Guyenne militaire. Tout à la fois, en 5 ans, il livre. Pour donner un exemple, la publication va durer 5 ans. Tous les mois, il donne à ses souscripteurs un livret de texte, un cahier de texte et 3 eaux-fortes, tous les mois. Alors, il a pris un peu d'avance, Mais dans la réalité, cette avance est au fond. Et donc, pendant 5 ans, il faut tout à la fois qu'il aille sur place. Donc, il fait des visites pour étudier, dessiner. Donc, il faut qu'il dessine, travaille sur les archives. Donc, tout ça lui prend énormément de temps. En même temps, il faut qu'il grave les plaques, 3 plaques, pour pouvoir donc fournir à ses souscripteurs les 3 eaux-fortes qu'ils attendent mensuellement. En même temps, il faut que ces plaques soient imprimées à Paris, chez Gilquin Dupin. En même temps, le texte est imprimé à Bordeaux, chez Gounouillou. Donc il faut qu'il maîtrise tout cela, qu'il surveille ses travaux d'impression. En même temps, il enseigne, il est professeur de dessin au lycée impérial, le seul lycée de Bordeaux qui existe à l'époque, aujourd'hui ici Michel Montaigne. Donc il doit assurer aussi en même temps ses cours de dessin au lycée impérial. C'est un travail monumental, effectivement, c'est un travail de galérien, il le dit lui-même. D'ailleurs, il tombe malade au moment de la Guyane, vers les années 63, il tombe malade à un moment, il est obligé de s'arrêter, tellement la fatigue le prend. Oui, c'est un très gros travailleur, bien sûr.
Voilà, je dois dire que c'est souvent ce qui frappe aussi chez ces érudits du 19e siècle, cette immense capacité de travail. Bon, j'ai des jeunes collègues qui ont les mêmes... capacité, mais c'est quand même assez rare. Et on peut faire le rapport aussi avec quelqu'un qui est son exact contemporain, qui est Viollet-le-Duc, ils sont exactement contemporains, mais c'est cette production extraordinaire. Donc,
je peux faire une citation puisque j'ai trouvé.
Voilà.
Une vie consacrée au travail, tous les contemporains l'attestent, ça correspond tout autant. Quelques promenades dans Bordeaux pour ensuite, alors là je cite. Donc c'est une lettre à son cousin Lorrain. « Reprendre ma galère collégienne, les bonnes journées en tête-à-tête avec une planche de cuivre et les bonnes soirées avec les bouquins. Je suis rendu dans mon cabinet à 7h du matin. Je n'en sors que pour aller aux archives du département, mine inépuisable. Et sitôt rentré, je recommence jusqu'à 10h du soir. Je cours en passant serrer la main à quelques bons amis et je reprends toujours et toujours ma tocade, mais c'est le rocher de Sisyphe. Jamais je n'arrive au bout de mes efforts. » J'oublie souvent d'attiser mon feu et je gèle, car cette année, il fait froid. » Alors ça, c'est dans les années 75. En 83, autre lettre. « Je travaille comme un chien de forgeron. Des leçons, des dessins, de la gravure, de l'histoire locale, des articles de revue, tout cela de 7h du matin à 10h du soir. Comme le temps passe vite, je n'en ai jamais assez. » Voilà. Bon. Donc c'est effectivement une vie de travail. Je crois que sa femme ne le voit qu'au moment du repas, au moment où il dit « il ne descend ». Qu'à l'heure de midi pour déjeuner avec son épouse.
Alors c'est là la grande différence avec son cercle d'amis, Castelnau, Trapeau de Colombe. Je me souviens que tu avais cité lors d'un colloque de l'Entre-deux-Mers cette phrase de Trapeau de Colombe qui disait « En définitive, je suis le dernier de ma lignée à pouvoir vivre sans travailler. »
Oui. C'est à peu près ça. Oui, alors c'est effectivement, un des problèmes de Drouin, c'est que bon, ses amis, effectivement, sont des hobereaux qui tous, effectivement, vivent de leur rente. On pense à Alexis de Gourgues, on pense à Charles Desmoulins, on pense effectivement à Guillaume de Castelnau. Bon, tous les gens qui fréquentent, puisque Drouin a un réseau nobiliaire exceptionnel, ce qui est très important d'ailleurs, je consacre quelques pages à ce réseau nobiliaire exceptionnel, parce que c'est ça qui lui a permis, bien évidemment aussi, de travailler sur les archives des châteaux. Chaque fois qu'il va donc visiter une commune, une région de la Gironde, ou même ailleurs, en Périgord ou en Haute-Garonne, il est accueilli toujours chez les châtelains, qui sont des amis, qui sont d'amis, des amis d'amis. Et de manière générale, il y reste quelques jours. Parfois, on a les témoignages qu'il y reste une semaine, parfois même 15 jours, parfois un mois. Et lorsqu'il reste donc accueilli, très bien accueilli, semble-t-il, l'hospitalité fonctionne très bien. Il remercie d'ailleurs toujours ses hôtes. Il laisse d'ailleurs souvent une très belle œuvre. Il laisse toujours, à partir du dessin qu'il y a dans ses albums, on retrouve parfois dans ses châteaux, comme à Roquepiquet, par exemple, ou au Sanda, en Lot-et-Garonne, on retrouve de très beaux dessins achevés, finis, qu'il a laissés comme cadeau, finalement, à ses hôtes, pour les remercier. Mais il n'oublie pas de travailler tous les soirs sur les archives. Il classe les archives. Il classe les archives de ses hôtes. Vous avez, par exemple, aujourd'hui, au château du Carpia, par exemple, bien, il y a une armoire entière qui est pleine des archives du château de Carpia classées par Loudroin. Et elles sont toujours là, dans le classement qu'a fait Loudroin. Donc, non seulement il classe, mais il transcrit. Et aux archives municipales de Bordeaux, vous avez 40 tomes de notes, 40 tomes de notes manuscrites, chaque tome est épais comme ça, de notes manuscrites sur les archives qu'il a recopiées, notamment dans les châteaux. Et heureusement qu'il a fait, parce que ces archives, la plupart du temps, dans ces archives privées, se sont perdues. Donc, dans beaucoup de cas, notamment en Entre-deux-Mers, la seule mémoire que l'on ait, le seul souvenir que l'on ait, ce sont les transcriptions qu'il a pu faire, et heureusement, ce sont des transcriptions extrêmement lourdes, extrêmement longues, qu'il a pu faire de ses fonds d'archives. Donc, un travail effectivement incessant, mais en même temps, il faut qu'il gagne sa vie. Il faut qu'il gagne sa vie, donc effectivement, il va être professeur de dessin au Collège de la Sauve. Il va être professeur de dessin au lycée impérial. Il va avoir des fonctions, il va obtenir à la fin de sa vie quelques fonctions comme inspecteur des archives communales, du département. Bon, il faut qu'il gagne sa vie. Il le dit tout crûment, d'ailleurs, notamment, consacre une double page à la correspondance qu'il a avec l'évêque d'Agen, dans laquelle il y a une discussion commerciale extrêmement sérieuse et même assez vive, et dans laquelle il explique à l'évêque d'Agen que les choses coûtent tant et c'est correspondance très intéressante parce qu'en plus, il donne le détail comment il facture finalement ses travaux, hein, le temps qu'il passe, combien ça lui coûte. Donc on a là des détails extrêmement intéressants. Et bien évidemment, il faut qu'il gagne sa vie. Donc ses amis, eux, peuvent se contenter, comme Chastaignet, comme Castelnau, disons, d'être des amateurs quelque part, hein, des amateurs passionnés. Mais Drouin, finalement, c'est ça qui est aussi tranche par rapport à ces amateurs passionnés. Drouin est beaucoup plus, effectivement, chien de forgeron. C'est-à-dire qu'il va au fond des choses. Il travaille de manière absolument méthodique. C'est un professionnel. C'est déjà un professionnel. Il travaille tel un professionnel. Et ça, ça fait aussi, finalement, l'avance qu'il a sur les autres. Il domine ses contemporains par cette puissance de travail et le fait d'aller au fond des choses toujours.
Oui, alors chez lui, il y a cette ambiguïté, d'une part, effectivement, cette parenté aux aristocrates et cette espèce de rejet du travail, quand il refuse, enfin, du travail mercenaire, du commerce.
Mercantile.
Oui, mercantile. Ça, c'est, il l'affiche très clairement. Mais en même temps, alors c'est là que l'on découvre, et c'est ce que tu viens de dire, c'est un homme d'affaires redoutable. Enfin, si, je veux dire, il est autant capable que toi de négocier des publications de manière trouver des financements et aller chez le praticien qui va lui tirer les gravures au meilleur rapport qualité-prix, enfin tout ça, l'achat même de ses crayons, de ses gommes, de ses plumes, c'est quelque chose qui est pensé, qui n'est pas du tout laissé au hasard, ce n'est pas un artiste évanescent, non, il sait très bien quels sont les bons fournisseurs et c'est un éditeur.
Oui. Il n'a pas le choix. De toute façon, il n'a pas le choix. Enfin, quand on est éditeur, on n'a pas le choix. Si on veut continuer à jouer, il faut quand même effectivement que voilà, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas se planter, comme on dit. Sinon, on ne joue plus. Bon, donc Léo Drouin a été effectivement son propre éditeur pendant une trentaine d'années, entre 1845 et 1870 finalement. Il va s'auto-éditer. Alors ça, c'est dû aussi à l'époque. C'est-à-dire on est dans cette époque de libraire-éditeur, mais où il n'y a pas encore vraiment d'éditeur. D'éditeur comme aujourd'hui. Et on le voit d'ailleurs à la fin de sa vie, vers les années 1875, arrivent de vrais éditeurs, comme Ferré, par exemple. Et là, finalement, Léo Drouin, c'en est fini de l'auto-édition. Il y a un moment où il ne peut plus, où les circuits ont changé, les circuits ont évolué. Et où il n'y a plus, finalement, cet espace de liberté qu'il y avait, parce qu'on était dans ce monde qui était encore pas très organisé du livre, de ces libraires-éditeurs dans lesquels, finalement, un homme comme Léo Drouin pouvait placer ses livres. Et ensuite, finalement, arrivent d'autres systèmes qui sont liés à toutes les évolutions aussi de l'imprimerie, puisque ce qui a aussi énormément évolué, et ça on le voit bien pour Léo Drouin, avec l'évolution des techniques, c'est aussi quand même toute l'évolution de l'imprimerie. Alors, c'est vrai que les 30 ans, entre 1845 et 1870, où il s'édite lui-même, à alors c'est vrai que bon, ben, il faut faire les choses comme on doit les faire. C'est-à-dire qu'effectivement, il va chercher les meilleurs artisans, le meilleur rapport qualité-prix. Il va faire ce qu'il faut pour pouvoir non pas vraiment faire fortune, parce qu'il ne fait pas fortune, mais faire en sorte de rentabiliser ses ouvrages. J'ai fait le calcul pour la Guyane militaire. Bon, finalement, c'est une affaire effectivement rentable. Lorsqu'il publie la Guyane militaire, il a publié donc à 300 exemplaires. Et avec, donc, j'ai retrouvé l'ensemble des factures, j'ai retrouvé l'ensemble des ventes, des subventions, des préachats qu'il a eus. Voilà, bon, donc on voit qu'effectivement, il va faire un bénéfice qui va lui permettre finalement de continuer l'aventure éditoriale, de continuer effectivement à pouvoir fournir à ses souscripteurs, donc de pouvoir mener cette aventure éditoriale de 5 ans, c'est long 5 ans, qui a été celle de la Guyane militaire. Alors en même temps, bon, c'est vrai qu'il faut prendre des contacts, il faut prendre des contacts avec les institutions, il faut que le Conseil général, effectivement, aide, il faut que la mairie de Bordeaux aide. Et parfois, il y a des conditions un peu difficiles. Lorsque, par exemple, la mairie de Bordeaux lui dit, il voulait appeler son livre La Guyane anglaise. Et lorsque la mairie de Bordeaux lui dit, Monsieur Drouin, on vous aidera à hauteur de 3000 francs, ce qui était une somme assez considérable, mais à condition que vous changiez ce titre peu patriotique de Guyane anglaise pour un autre titre, eh bien Léo Drouin trouve ça totalement ridicule. Il est choqué, il trouve que ça n'a aucun sens. Ses amis en rient, la presse en rit, mais cependant, il va s'exécuter. Et la Guyane anglaise va devenir la Guyane militaire. Voilà.
Bien, on va pas tarder à laisser la parole à la salle, mais je voudrais un dernier point qui me heurte quand même. C'est cette rupture avec la société archéologique. En tant que président de la société archéologique, évidemment... Je regrette beaucoup que Léo Drouin ait eu des rapports aussi mauvais avec cette vieille dame que je pensais bien née. Mais pour lui, pas du tout. La société archéologique était républicaine. Et donc, il se sentait pas très bien là-dedans. Il a d'ailleurs des formules un petit peu assez définitives de ce point de vue. Et puis surtout, alors là, je crois que tu vas... Peut-être que vas-tu un peu trop loin quand tu en fais une espèce de révisionniste, parce que la rupture s'opère à propos d'une histoire qui a trait à des monuments préhistoriques. Et tu trouves une très, très jolie phrase qui pourrait servir peut-être à certains candidats républicains des États-Unis d'Amérique dans ses arguments révisionnistes. Voilà la phrase. Les plus... qui est très très jolie, même si idéologiquement elle n'est pas très politiquement correcte. Les plus enragés cherchent au moyen de petits cailloux et de vieux os à prouver que le monde a des milliers d'années de plus qu'autrefois. Donc ça c'est une très jolie phrase, cette qui montre en même temps que c'est un homme d'esprit, un esprit vraiment extrêmement fin. Et ce qui n'empêche pas que il n'est pas conservateur, il est réactionnaire tout à fait dans cette affaire. Et donc, on pourrait conclure là-dessus, voir comment ce Léo Drouin est beaucoup plus à l'aise avec l'Académie, par exemple, dans laquelle il rentre très tôt, qu'avec la société archéologique, qui a toujours été un peu une société marquée par le coin du républicanisme, même si maintenant elle est bien assagie. Dans son état actuel, dans sa composition actuelle.
Oui, moi, je crois que c'est une question intéressante, bien évidemment, parce que lorsqu'on présente Léo Drouin, lorsqu'on présente ces gens-là, finalement, très souvent, on édulcore, voire même on occulte la dimension politique, idéologique, finalement, de ces personnes qui ont vécu en leur temps et qui ont pris des partis finalement, les ont animés. Et au XIXe siècle, c'était extrêmement vivant, pour ne pas dire violent. Et Léo Drouin, donc, appartenait à ce parti légitimiste dont j'ai parlé, catholique, ultramontain. Et il est certain que, quelque part, même si heureusement, cela n'influe pas sur la qualité ni de son travail d'artiste, ni de son travail d'historien, même si ça peut l'obvier hein, vers des sujets comme le Moyen-Âge, ou comme la castellologie. Mais c'est vrai aussi que ça a pu avoir, et là, il y a eu une sorte, finalement, quand même, d'omerta là-dessus, ça a pu avoir des conséquences un peu gênantes, notamment, il est passé complètement à côté de la préhistoire. Alors, c'est vrai que donc, c'est lié à la Société archéologique de Bordeaux. Léo Drouin, en 1874, se crée à Bordeaux, en 1873-74, se crée une Société archéologique de Bordeaux. Et elle est dirigée à Bordeaux. En même temps, il y en a une en Périgord. Léo Drouin va adhérer aux deux. Mais celle du Périgord, elle est dirigée par des amis à lui, qui sont tous, finalement, appartiennent tous à la noblesse locale. À Bordeaux, ce n'est pas du tout le cas. À Bordeaux, la SAB est créée par un député républicain, Sansas, Pierre Sansas, qui a été chassé, qui a été déporté par Napoléon III, qui s'est battu, qui finalement a été ostracisé pendant tout le Second Empire, et qui va devenir député, bien sûr, en 1871. Et donc, enfin, Pierre Sansas peut réaliser, ce qui a été le rêve de sa vie, une société archéologique bordelaise. Et dans cette Société archéologique de Bordeaux rentrent finalement beaucoup d'amis de Pierre Sansas. Et bon, Léo Drouin en fait partie. Beaucoup de ses amis n'en font pas partie. Marionneau n'en fait pas partie. Castelnau n'en fait pas partie, jamais. Mais Drouin rentre avec quelques-uns de ses amis. Il va y rester effectivement 2 ans. Il va y rester 2 ans, pourquoi ? Parce que d'abord, il n'est pas chez lui, effectivement. Il se sent très mal, effectivement, parce qu'il n'est pas dans ce milieu. Et l'Académie de Bordeaux, qui est comme l'Académie française à l'époque, est plutôt, disons, j'en dirais, un lieu dans lequel les légitimistes se retrouvent plus aisément. Ce n'est pas du tout le cas de la Société archéologique de Bordeaux. Et là, il y a une question brûlante à l'époque, qui est celle de la préhistoire. Hein, depuis les découvertes de Boucher de Perthes, et puis Darwin. Bon, bien évidemment, on se rend compte que, disons, les grandes datations de la Bible ne sont plus trop tenables. Et la question, bien sûr, de l'antidéluvien est une question brûlante. Que les amis, Léo Drouin, les archéologues, notamment, je pense à Chastaignier, dans la première réunion de la Société archéologique de Bordeaux, on a un texte dans lequel... Okay, il désire que cette question ne soit jamais abordée par la société. Mais évidemment, c'est refusé. Et au contraire, on voit que la jeune garde qui accompagne Pierre Sansas, qui est aussi une génération nouvelle, c'est la génération après Drouin, et qui sont tous effectivement des républicains, eux se passionnent pour la préhistoire. Et là, Léo Drouin, effectivement, va abandonner. On le voit, lui, qui a des collections d'objets préhistoriques dans les 50. Progressivement, c'est un sujet qu'il abandonne complètement. Il refuse de s'en occuper. Et cette phrase qu'a citée, que je voulais citer moi aussi, qu'a cité Philippe, les archéologues eux-mêmes sont divisés, les plus enragés cherchent, etc., au moyen de petits cailloux, de vieux os, à prouver que le monde a des milliers d'années de plus qu'autrefois, sous, disons, le côté un peu amusant de la formule, cache effectivement un très gros malaise. Et Léo Drouin, finalement, quittera au bout de 2 ans cette Société archéologique de Bordeaux. Alors, il quittera la tête haute parce qu'il va trouver un prétexte éthique, hein, qui est effectivement le fait que la Société archéologique de Bordeaux et les préhistoriens en question vont publier un article dans lequel ils indiquent qu'une pierre que connaît très bien Léo Drouin, qui n'a rien de mégalithique, serait un mégalithe. Donc Léo Drouin a un très bon prétexte. Donc c'est la pierre d'évier de Lussac, que certains peut-être connaissent. Enfin, voilà, la pierre d'évier qu'on a d'ailleurs rencontrée dans nos promenades estivales cet été, avec la fête à Léo. Et on a parlé sur cette pierre-là, de cette histoire-là, effectivement. Et Léo Drouin va donc dénoncer le fait qu'on puisse affirmer que cette pierre est un mégalithe. Il va demander, bien évidemment, à la Société archéologique de Bordeaux d'opposer, d'un démenti, enfin de condamner cet article qui est fait par, disons, les amis de Sansas. Bien évidemment, la Société archéologique de Bordeaux refusera et Léo Drouin pourra quitter la tête haute la Société archéologique de Bordeaux en disant que, bien évidemment, il ne peut pas cautionner un article comme celui-là. Mais fondamentalement, on a retrouvé une lettre adressée à ses amis périgourdins, justement, de Léo Drouin, qui dit « Cette société, alors je crois que c'est la phrase, voilà, « Quelle boutique démocratique que la nôtre, il faut y être républicain ou la mort, je la lâche. » Donc voilà, la véritable raison, elle est dans la correspondance. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, dans le travail qu'on a pu commencer à mener, que j'espère que nous allons d'ailleurs mener encore plus longuement, c'est effectivement tout ce qu'apporte, je dirais, à la connaissance de l'homme, non seulement bien sûr son œuvre, la lecture de ses écrits qui ont été publiés, la lecture de ses notes archéologiques qui sont connues, puisque Drouin a laissé ses notes historiques et archéologiques aux archives municipales de Bordeaux à sa mort par testament, mais la découverte aujourd'hui de centaines et centaines de lettres qu'il a pu envoyer ou qu'il a pu recevoir apporte une connaissance vraiment intime du personnage et permet finalement aussi, comme presque archéologique de Bordeaux, parce que finalement, personne jusqu'à présent n'avait cherché à comprendre pourquoi Drouin, lui, l'archéologue le plus connu de Gironde, est resté 2 ans à la Société archéologique de Bordeaux. Et on peut relire tout ce qui a été écrit sur la Société archéologique de Bordeaux jusqu'à aujourd'hui. Jamais cet aspect-là n'est évoqué. Jamais. Pas une seule fois. Une sorte d'omerta totale. L'arrêté, oui, il y a des raisons politiques, il faut le dire. Il y a des raisons idéologiques, il faut le dire. Et Drouin n'a pas eu beau rôle sur la préhistoire. Il s'est totalement planté. Mais pour des raisons idéologiques. Parce qu'il ne voulait pas, accepter des thèses qui contredisaient ce qui était la Genèse, les thèses de la Genèse dans la Bible.
Après avoir conclu sur Drouin créationniste, comme il va falloir libérer la salle, vous pourrez poser les questions individuellement à Bernard Larrieux en lui demandant une autographe sur le livre que vous allez bien sûr acheter pour passer de bonnes soirées en regardant ces merveilleuses images et lisant ce texte passionnant.